Aujourd'hui, dernier jour du mois de novembre, le 30 novembre, à Rencontre spirituelle, nous célébrons Saint-André, qui est célébré d'ailleurs dans toute l'Église, qui est célébré aussi dans l'Église grecque ou dans l'Église russe, qui est célébré à travers le monde par les chrétiens, car c'est un apôtre, et un apôtre important plus qu'on ne pense, un apôtre de Jésus-Christ. Un des premiers à croire. Et d'ailleurs, son nom, qui est un nom grec, paraît-il assez rare. On le trouve dans Hérodote, ce grand écrivain de l'Antiquité. Eh bien, le Bréviaire des apôtres, c'est un ouvrage extrêmement ancien, l'interprète comme viril, beau. Espérons que ça lui convient bien, car moi, personnellement, je crois que nos apôtres, quand on y pense, ces hommes simples, mais moins simples qu'on pourrait le croire, qui ont su accompagner Jésus dès qu'il les a appelés, qui ont su répondre, à la différence de nous qui avons tellement de difficultés à répondre à l'appel que l'on entend pourtant toute notre vie. Hein. On l'entend, cet appel, on ne répond guère. Mais lui, comme les autres apôtres, a répondu rapidement. Le Nouveau Testament est bien bref pour nous raconter qui était Saint-André, mais on sait que Jean-Baptiste se trouvait avec deux disciples à Béthanie, au-delà du Jourdain, et fixant son regard sur Jésus qui passait, il avait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ces deux disciples l'entendant parler ainsi ont suivi Jésus. Et Jésus se retourna et leur dit, « Que cherchez-vous ? » Et André et l'autre ont répondu, « Rabbi, maître, où demeures-tu ? » Et Jésus leur a répondu cette belle réponse, « Venez voir. » C'est ça que Jésus nous dit quand il nous appelle, hein, « Venez voir. » Voyez avec votre cœur, avec les yeux de votre âme. Hein? Et dans l'Évangile, on dit que c'était vers 4 heures de l'après-midi et qu'ils restèrent auprès de Jésus ce jour-là. Et qu'André était le frère, ou pas de n'importe qui, du premier pape Simon-Pierre. L'autre, probablement, était Jean. André rencontra son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » C'est là qu'André a entendu l'appel. Hein? Et il le conduisit à Jésus. Et le lendemain, Jésus a résolu de partir pour la Galilée. Et André et Pierre étaient de Bethsaïde, au nord-est du lac de Tibériade. Et comme Jésus cheminait sur le bord du lac, il a vu Simon-Pierre et André qui jetaient cette espèce de filet conique à la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il a dit, « Venez à ma suite. » Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant leur filet, ils l'avaient suivi. Et d'après Saint Luc, ce fut la conclusion d'une pêche miraculeuse. De toute façon, on sait qu'après avoir prêché dans la synagogue de Capharnaüm, bien Jésus est venu chez Simon-Pierre et André, et il avait guéri la belle-mère de Simon, qui était malade. Simon, qui s'appellera Pierre de façon définitive, tant Jésus lui dira, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » André a fait partie de l'équipe des 12 apôtres. Saint Matthieu, l'évangéliste, et Saint Luc, qui était un médecin, qui a écrit un autre évangile, le nomme tout de suite après Pierre. Quant à l'évangéliste Saint Marc, il le présente après Pierre, Jacques et Jean. Et les Grecs, nos frères grecs orthodoxes, appellent André le protoclé, le premier appelé, protoclétos. D'ailleurs, l'Église russe voit en lui le pervozvani. Il demeure, selon la signification identique de ces deux termes grecs et russes, bien le premier appelé par Jésus, par Jésus lui-même. De l'autre côté de la mer de Galilée, La foule entourait Jésus et comment la ravitailler? C'est André qui avait dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et Jésus lui avait dit cette chose extraordinaire, « Faites-les s'étendre ». En d'autres termes, quand on veut nourrir une foule de la parole de Dieu, il faut savoir leur permettre d'écouter dans le repos, pas dans l'énervement, l'excitation, mais dans le repos. Faites-les s'étendre. Et là, Jésus a multiplié les vivres, car la parole de Dieu se multiplie. Elle s'est multipliée comme les poissons, comme les pains d'orge. Elle se multiplie. Le Christ le veut. À nous de le faire, hein, de participer à ce miracle extraordinaire. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire ça dans notre milieu. À Jérusalem, des païens de langue grecque voulaient voir Jésus. Alors, ils avaient demandé à Philippe qu'il l'a répété à André. André et Philippe l'ont dit à Jésus. Au sortir du temple, Jésus a prédit, ce qui nous semble bien curieux, la destruction. Sa propre destruction à ses disciples. Quand s'étaient assis en face sur le mont des Oliviers, Pierre, Jacques, Jean et André, c'est dans Marc au chapitre 13, s'interrogèrent en particulier, « Dites-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe avant-coureur ?» En tous les cas, c'est tout ce que les évangiles nous livrent sur saint André. 2 mentions dans Matthieu, 3 dans Marc, 1 dans l'évangile de Luc et 4 dans l'évangile de Jean. Il y a aussi dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, au verset 13, c'est une énumération, là on énumère l'équipe apostolique, l'équipe des apôtres, dans un ordre analogue à celui de Marc. Alors il y a Pierre, Jean, Jacques, André, et ainsi de suite. Il est le 4e. On lui a forgé une belle histoire. Le récit de sa mort est situé, selon certains, à Patras, dans le Péloponnèse, c'est-à-dire en Grèce. C'est à visiter le Péloponnèse, il y a tellement de choses à voir là. Le proconsul, dit-on, a ordonné de fixer Saint-André à une croix par des cordes pour que la mort soit plus lente. On raconte que le peuple protestait et disait « Un homme juste, un ami de Dieu, un docteur bon, il est mené à mort. » Et devant la croix, André se serait écrié « Salut aux croix !» C'est très beau. C'est ce que nous devrions dire devant les croix que nous avons et que nous recevons tout au long de notre existence. Salut aux croix. Tu te reposes en m'attendant. Je suis bien sûr que tu te réjouis de recevoir le disciple de celui qui fut suspendu à toi. Aussi, je suis joyeux en marchant vers toi, car je connais ton secret et je sais pourquoi tu es planté. « Reçois celui que tu désires. Je désirais ta beauté. Je t'ai trouvé. Je vois en toi, ô croix, ce que mon Seigneur m'a promis. Croix choisie, reçois-moi pour Dieu et transporte-moi au Seigneur Jésus. » Tout ça est extrêmement poétique, c'est presque surréaliste, hein? Mais c'est très beau. C'est très beau dans la tradition chrétienne, toute cette symbolique, ce charme de la littérature chrétienne. Le christianisme est plein de ça, hein, de ce que l'on recherche aujourd'hui dans des pièces de théâtre qui ne concernent en rien les problèmes religieux. Mais on s'enchante devant une littérature qui a une symbolique, un charme spécial qui nous arrache au quotidien. À plus forte raison, il me semble, nous, chrétiens, quand nous lisons ces textes-là et que nous croyons ce qui est dit, pouvons-nous être enchantés par toute la poésie qui se dégage de tout ça? Nous le retrouvons d'ailleurs dans l'Eucharistie. Du début jusqu'à la fin, il y a toute une symbolique dans les textes. C'est tellement magnifique une messe, c'est tellement beau. Ah, si l'on savait goûter la littérature, toute la poésie qui se dégage des antiennes, des psaumes, des lectures, et même du canon de la messe et de tout ça, c'est fantastique, hein? C'est emballant, au fond. On s'emballe pas assez, je trouve. On manque d'émerveillement, hein? Et au moment où Saint-André, dit-on, prononçait cette espèce de discours poétique à la croix, eh bien, le peuple intercédait auprès du proconsul et lui disait « Accordez-nous le pardon de cet homme juste. Rendez-nous cet homme saint. Ne tuez pas un homme cher à Dieu. Ne faites point périr un homme doux et pieux. Depuis 2 jours qu'il est suspendu, il vit encore et ne cesse pas de dire de bonnes paroles. Il nous nourrit par ce qu'il dit. Rendez-nous ce saint pour que nous vivions. Déliez le chaste, et tous les foyers seront en paix. Relâchez l'homme sage, et toute la Grèce obtiendra miséricorde. » C'est beau. C'est très beau, cette prière encore. Je trouve très poétique ces vieux textes que l'on a écrits en voulant honorer Saint-André. Et on ajoute que André poussa un grand cri et qu'il a dit « Ne permettez pas, Seigneur Jésus-Christ, que votre serviteur, qui pour votre nom est pendu au bois, soit délié. Ne permettez pas que celui qui a pénétré vos secrets soit livré aux tripotages humains, mais accueillez-moi, mon Maître, ô Christ, que j'ai aimé, que j'ai connu, que je retiens, que je désire voir, en qui je suis ce que je suis. En qui je suis ce que je suis. Recevez mon âme qui va sortir, Seigneur Jésus-Christ. » C'est très beau, c'est rare qu'on entend cette parole de la bouche de quelqu'un qui va mourir, hein? Recevez mon âme qui va sortir. C'est un peu comme notre première naissance, nous sortons du sein de notre mère pour aller à la rencontre de la lumière dans laquelle nous baignons sur cette terre, la lumière du soleil, la nuit, la lumière de la lune. Mais quand nous sortons de cet univers, quand notre âme sort de notre corps au moment de la mort, elle entre dans la lumière et nous devrions mettre dans nos journaux non pas que nos parents sont décédés, mais que nos parents, nos enfants, nos frères, nos sœurs, sont entrés dans la lumière de Dieu. Je vous l'avais déjà dit, j'ai mis ça pour ma mère quand elle est morte en 1982. Ça avait étonné quelques rares personnes, mais le père Émile Legault avait trouvé ça très, très beau. Il était tout fier, tout heureux, il m'avait téléphoné sa joie, son enthousiasme. Pour ce qui est de Saint-André, Saint-Jean Chrysostome nous rapporte qu'il ignorait où reposait cet apôtre. D'après le grand historien très ancien de l'Église, Saint-Eusèbe, Saint-André aurait évangélisé la Scythie. La Scythie, ça s'écrit S-C-Y-T-H-I-E. C'est au nord de la mer Noire, hein? Des textes qui n'ont guère d'autorité nous rapportent des noms bizarres. On prétend qu'il serait allé chez les Éthiopiens, que Saint-André serait allé même chez des anthropophages. On peut tout laisser tomber ça. Les Grecs, dans leur synaxaire, mentionnent des pays sur la côte sud de la mer Noire, donc, et aussi Patras. À une époque assez ancienne, les Géorgiens du Caucase ont revendiqué André pour leur apôtre. En somme, on s'est arraché Saint-André. Oh, il y a des reliques qui seraient venues à Constantinople en l'an 357 par l'entremise du préfet d'Alexandrie en Égypte. On raconte toutes sortes de choses. Je vous fais grâce de tous ces détails qui sont sans grande importance. On sait toutefois que son culte s'est répandu très vivement, très rapidement. Partout, on l'a honoré. En Angleterre, si je signale ça, près de 700 églises ont été placées sous le patronage de Saint-André. En fait, après Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est l'apôtre qui a le plus d'églises en France. De toute façon, dans l'iconographie, Saint-André se distingue, dit-on, par sa barbe hirsute. C'est un peu particulier. Alors que Saint-Pierre, lui, a une barbe ronde, des cheveux crépus. Et on remarque ça sur les représentations de Saint-Pierre. On ne sait pas qui a décidé ça, mais c'est possible que ce soit dans l'iconographie extrêmement ancienne de Jean qui les avait connus. Saint-Paul, lui, a la barbe en pointe, puis a le front chauve. Hein? On remarque ça dans les églises. La croix de Saint-André, c'est un X que l'on retrouve sur l'Union Jack, hein? Le drapeau des Anglais, qui vénère beaucoup Saint-André. Jusque vers 1310, on représentait Saint-André avec une croix ordinaire, mais c'est par la suite que la croix est devenue un X. Pour ce qui est de Saint-André, le 30 novembre, jour de sa fête, sa tête, son crâne, qui est conservé à Saint-Pierre de Rome, est toujours présenté à la vénération des fidèles. Il sera donc présenté, ou il a donc été présenté aujourd'hui à la vénération des fidèles à Saint-Pierre de Rome. Par contre, on ne parle plus aujourd'hui de l'huile d'agréable odeur qui s'écoulait au Moyen-Âge de son tombeau à Amalfi et qui guérissait les malades. C'était une pure légende et tout ça a été éliminé. Saint-André, ça peut être intéressant, est invoqué contre la stérilité conjugale. Ceux qui se plaignent de ne pas avoir d'enfants pourraient peut-être l'invoquer. Il serait invoqué aussi contre les maux de gorge, c'est la saison pour ça, hein? Le torticolis, dont mon pauvre fils souffrait si souvent, de la goutte, dont on parle souvent dans les vies de certains écrivains, les crampes, et surtout contre la dysenterie qui fut longtemps appelée mal de Saint-André. La dysenterie, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? On attrape ça surtout en voyage. Et alors, les filles à marier l'invoquaient à cause de son nom. Je vous avais dit que son nom signifiait viril. Au 19e siècle, en Alsace, et dans presque tout ce qu'on appelle le Sundgau, en Alsace, celles qui désiraient voir en rêve leur futur mari coupait, dit-on, une pomme en deux, en mangeait la moitié et plaçait l'autre sous leur oreiller et récitait 5 pater et 5 ave en l'honneur de Saint-André. Que de superstitions on avait, qui existe encore parfois ici et là, hein? De grâce, hein? Appréciez dans quelle lumière notre foi est rendue aujourd'hui. Tout va progressant, hein? Et la seconde moitié de la pomme devait être mangée seulement au réveil. Martin Luther signalait, lui, pester contre toutes ces pratiques, toutes sortes de pratiques semblables. Heureusement que Luther a su pester contre toutes ces sornettes. C'est là que j'admire beaucoup Martin Luther sous certains rapports, hein. Je ne suis pas luthérien, mais j'admire Luther pour avoir pesté contre toutes ces aberrations. Saint-André est invoqué dans les combats. À la suite de son apparition, dit-on, en 1098, aux chrétiens d'Antioche qui étaient assiégés par les musulmans, qu'on appelle souvent les Sarrasins. Il leur indiqua, dit-on, le lieu où se trouvait enfouie la lance qui avait percé le côté de notre Seigneur, et leur ordonna de la porter dans le combat, leur assurant ainsi la victoire. Que de légendes au Moyen-Âge. Saint-André, on le sait, c'est le patron de l'Écosse. Il y a le bal de la Saint-André, sans doute, qui sera célébré ce soir, j'imagine, probablement dans un grand hôtel de Montréal. Les Écossais qui sont très nationalistes, il y a une grande partie des Écossais qui souhaitent leur liberté. Près de la moitié des Écossais souhaitent se séparer de l'Angleterre, actuellement. Alors donc, il est le patron de l'Écosse. Il est aussi le patron de la Russie et ce qu'on appelle leurs ordres nationaux, ordre du Chardon et Croix de Saint-André. Quelqu'un qui a la Croix Saint-André en est très fier. Saint-André a été également le patron de la Bourgogne. Et aussi de l'ordre de la Toison d'Or, ça intéressera tous les jeunes qui lisent des récits d'aventures autour de la Toison d'Or. Plus modestement, notre Saint-André, qui était un pêcheur du lac de Tibériade, est aussi le patron des pêcheurs en eau douce. Il est le patron des poissonniers. Il est même, paraît-il, on pourrait dire le patron des Québécois, puisqu'il est le patron des porteurs d'eau, et qu'on s'attribuait souvent le titre de porteur d'eau à l'époque où nous étions bien soumis. Il est le patron des cordiers qui fabriquent des filets, puisqu'il a si souvent tendu ses filets dans le lac de Tibériade. Son culte, de toute façon, s'est répandu, comme je vous ai dit tout à l'heure, à travers le monde, et on l'a invoqué partout, en Russie, en Grèce, et en 1850, il y a eu toutes sortes d'aventures autour du corps d'André, et les Russes prétendaient l'avoir, et des négociations entre le gouvernement du tsar et toutes sortes de gens ont abouti à rien, finalement. Quand la célèbre croix de Saint-André, elle, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en X, et on l'appelle souvent dans les vieux textes la crux decussata, c'est-à-dire la croix faite avec le chiffre 10. Le nombre 10 en latin était figuré par le signe X, on le sait, et on ignore l'origine de cette représentation. Jusqu'au 15e siècle, Saint-André est représenté sur une croix latine ordinaire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est curieux, on ne sait pas pourquoi la croix de Saint-André est en forme de X. Nous venons de parler de Saint-André, le saint du jour. Il y a aussi aujourd'hui le bienheureux Joseph Marchand. Curieux nom, un nom québécois. J'ai même vérifié dans l'annuaire de Montréal, le bottin téléphonique. Il y a deux Joseph Marchand. Il y en a un à Saint-Vincent-de-Paul. C'est assez curieux. C'était un prêtre, ce Joseph Marchand, ce bienheureux Joseph Marchand, et c'est un martyr. C'est un homme merveilleux, admirable, qui est mort en 1835. Il est né le 17 août, en 1803, dans le diocèse de Besançon, en France, à Passavant. Il était le second enfant d'une famille de cultivateurs, qui devait en compter 9. C'est seulement en novembre 1826, donc à 23 ans, qu'il est entré au grand séminaire, fils de cultivateur. Il n'avait pas peur de porter parfois un cilice, encore les cilices. Ça prend de la cèse et du courage pour devenir un saint. Donc, il n'avait pas peur de porter parfois, je dis bien, un cilice, et de coucher sur des planches même. On retrouve ça souvent. Nous couchons souvent dans des lits beaucoup trop mous. Et quand notre réveil sonne, on ne se lève pas tout de suite, on traîne au lit. Le jour où on se décide vraiment, quand le réveil sonne, de sortir du lit, de se jeter par terre, en adoration devant Dieu et en priant, déjà il y a un changement qui s'opère dans notre vie. Déjà. Et si on sait prendre une bonne douche un peu froide, si on sait vraiment faire sa prière, si on sait vraiment se discipliner, tout de suite organiser sa vie pour en faire quelque chose, déjà Dieu devient beaucoup plus présent dans notre vie. Et c'est avec beaucoup plus d'enthousiasme que l'on court chaque jour à la messe, on faisait à l'époque, hein? Et il était tonsuré. Bon, j'explique pour cas où il y a des auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, parce que c'est disparu. C'était un signe qui, paraît-il, peut-être vient de l'ancienne Égypte, ou du moins de la tradition très très ancienne que l'on retrouve aussi chez les bonzes, dans le bouddhisme, chez les moines, les prêtres, dans l'hindouisme, etc., dans les anciennes religions, on trouve ça, on se rasait le crâne. Et alors, au lieu de se raser le crâne, bien les prêtres séculiers, les prêtres diocésains, qui se contentaient de se raser le format d'une grosse pièce de monnaie, je dirais d'une plus grand qu'une hostie, quoi, sur le crâne. Et c'était un signe de consécration, de soumission à Dieu, de don de soi. Et les moines, eux, qu'on l'on voyait dans les rues il n'y a pas si longtemps, les franciscains, les dominicains, etc., portaient aussi de grandes tonsures, eux, beaucoup plus grandes. Ils avaient donc des espèces de couronnes de cheveux, et souvent portaient des sandales. J'ai vu ça dans mon enfance, je ne suis pas si vieux, mais tout a tellement changé. Et je me souviens, moi, quand je suis entré au Grand Séminaire de Montréal en 1950, je me suis fait tonsurer ainsi par signe de consécration. Et alors, le désir des missions lointaines est né dans le cœur de notre Joseph Marchand. Son curé, qui s'appelait Monsieur Jeune, c'est surprenant, Monsieur Jeune, ne tenait pas du tout à perdre un tel candidat. C'était un prêtre, Monsieur Jeune, qui avait donné un peu dans le schisme constitutionnel au temps de la Révolution française, une quarantaine d'années plus tôt, hein. Et puis, militaire, il avait gagné des galons de capitaine, et de là, il était passé à l'École normale de Paris, où le fameux Monsieur La Harpe, faudrait qu'on revienne là-dessus, il l'avait converti, comme on dit. Et alors, ce bon prêtre, malgré tout, qui était pas si méchant, avait rétracté ses erreurs passées, puis il exerçait avec zèle sa charge de curé dans son village du Doubs. Et alors, ce curé, Monsieur Jeune, voulait que son Joseph Marchand se dévoue à Dieu en France, où il y avait tant à faire. Hein? Mais si notre Joseph Marchand se pliait à son curé assez respectueusement, dans son cœur, il savait pas comment abandonner son projet, il en était incapable. D'ailleurs, il avait conquis son frère Jean-Baptiste Marchand. Et puis, leur père disait, « Ça va mal finir pour moi, parce qu'il voyait perdait deux fils. » Alors, des lettres ont été échangées entre Joseph Marchand puis Monsieur Jeune en 1828, quand notre Joseph Marchand avait à peu près 25 ans. Et puis, il reconnaît la justesse de cette maxime de l'imitation de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous lisez ça, l'imitation de Jésus-Christ. Il m'arrive de lire ça encore. On dit que c'est pas très bon à lire parce que c'est trop monastique. Ça a été écrit pour des moines, par vraisemblablement Thomas à Kempis, dont je vous parlerai un jour, il y a 5 siècles environ. Mais dans l'imitation, on trouve de belles choses, comme cette maxime dans le premier livre, au chapitre 9. C'est pas long. Des pays qu'on s'imagine et la manie du changement en ont égaré beaucoup. Que de gens, hein, disent, « Ah, je m'en vais en voyage, tout va se régler. Je pars, je vais m'établir ailleurs, je vais vivre à Vancouver et tout va se régler. Je vais aller m'établir en France et puis ça va être beaucoup mieux. Je vais aller vivre en Gaspésie et tout va changer. » Mais non, ils traînent tous leurs problèmes. Et la même chose, changer et changer, ça ne donne rien. C'est ce changer qui compte. Hein. C'est ce que l'imitation nous enseigne. Hein. Alors, notre Joseph Marchand, lui, malgré cette citation d'imitation, il ne peut pas se défendre de répondre à cet appel qu'il entend au fond de son cœur, qui l'entraîne. On le retrouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, « Courons à l'épreuve qui nous est proposée ». Alors, les gens lui disaient, « Mais est-ce que les Français ne valent pas mieux que les Indiens ?» Quelle horreur de dire des choses pareilles, hein? Alors, lui, il répondait que Dieu ne fait exception de personne. Il répondait, au fond, comme saint Paul dans l'Épître aux Romains, aux Éphésiens, puis aux Colossiens, où saint Paul répète trois fois, en somme, « Dieu ne fait point exception des personnes. Hein? » Dieu reconnaît tout homme, toute femme, comme son enfant. Les itinérants, les drogués, les mécréants, les pires personnes, les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les enfants, les adultes. Dieu ne fait point exception des personnes. Et c'est saint Paul qui dit dans l'Épître aux Romains, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, c'est-à-dire aux étrangers. » Et le Christ, d'ailleurs, a commandé formellement, « Allez me faire des disciples dans toutes les nations. » Je vous cite ces paroles-là parce que souvent j'entends dire que nos prêtres ne devraient pas partir pour l'étranger. Quelle est l'idée de ces laïcs qui partent pour servir en Haïti ou ailleurs? Nous nous devons à tous. Et pour qu'on ne soit pas effrayé par l'énormité de la tâche, notre bienheureux Joseph Marchand ajoute dans une lettre à son curé, cette citation de l'Évangile de saint Matthieu, au chapitre 28, « Moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Alors, notre séminariste est entré comme sous-diacre aux fameuses missions étrangères de Paris, sur la rue du Bac. C'est à droite de la fameuse chapelle, la médaille miraculeuse de Sainte-Catherine-Labourie, dont je vous ai parlé l'autre jour. Il est entré là à Noël 1828. Il faut aller visiter quand vous êtes à Paris, non seulement la chapelle, la médaille miraculeuse, mais aussi le musée, j'espère qu'il est toujours là, le musée près des missions étrangères de Paris. C'est très intéressant et procurez-vous quelques ouvrages sur Théophane Vénard ou quelques autres bienheureux et saints qui sont partis de cette maison pour mourir à l'étranger martyr. Joseph Marchand écrivait à ses parents de ne pas le regretter. Il disait « Donnez une autre direction à votre tendresse. Que votre tendresse vous soit un motif de prier sans cesse pour moi et de redoubler d'efforts dans le service de Dieu. » Alors, il est devenu prêtre en 1829, le 4 avril. Et le mois suivant, il s'est embarqué, le 12 mai, à Paimbœuf, sur le bateau. Et chose étonnante, le bateau, croyez-le pas, s'appelait Voltaire. Fait un dur voyage, peut-être parce que ça s'appelait Voltaire, ce bateau. Dur voyage avec un équipage, en plus de ça, qui était très anti-religieux et même obscène. Imaginez, un nouveau prêtre qui part pour les missions et qui se retrouve avec des gens comme ça. Et un matelot avait osé prier un jour avec les missionnaires. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce matelot? Imaginez, on lui a asséné 25 coups de corde pour le punir. Et s'il récidivait, non pas pour une messe, parce que c'était impossible de dire la messe, mais simplement d'aller prier avec les missionnaires ou de leur parler, on lui en aurait donné 50 coups de corde. En somme, tout ce voyage, ça a été pour lui une espèce de noviciat pour le martyr. À la douane, une espèce de mandarin l'a examiné longuement. Parce que notre Joseph Marchand était vêtu en chinois. Chose absolument étonnante, ce mandarin l'a palpé, est amené même jusqu'à le caresser, à mesurer ses bras et ses jambes, et enfin il l'a laissé aller. Quand le pilote portugais du navire lui a donné une recette pour devenir aussi beau que ce Joseph Marchand qui apparaissait aux yeux du mandarin comme un extraterrestre, une espèce de céleste extraordinaire. Le père Joseph Marchand, ou l'abbé Joseph Marchand, a appris le vietnamien au collège de Lai Thieu, puis il a visité les provinces de My Tho, Vinh Long, Chau Doc, et a remonté jusqu'à Phnom Penh, au Cambodge. Je donne les noms car je sais qu'il y a des Vietnamiens qui m'écoutent. Revenu à Lai Thieu, il y a enseigné tout en administrant quelques chrétientés. Là, il a fait un nouveau voyage. Il a été chargé de la province de Binh Thuan, grande comme le diocèse de Besançon, son diocèse d'origine, avec plus de 7000 chrétiens qui étaient en 25 paroisses ou 25 groupements. Il faut un grand mois pour la traverser en barque. Chaque jour, de 5 heures du matin à 10 heures du soir, il accomplissait un travail apostolique sans s'arrêter. Depuis 1820, il faut dire, l'Indochine était régie par Minh Mang, un prince intelligent mais cruel et très xénophobe. Et au début de 1833, la persécution a chassé notre missionnaire Joseph Marchand. Alors, il s'est réfugié dans la basse Cochinchine. Il s'est tenu caché quelque temps et un chef révolté contre Minh Mang l'a découvert près de Mac Bac, l'a amené avec lui à Cho Quan et l'a enfermé dans la citadelle de Saigon. Il voulait le forcer à soulever les chrétiens contre Minh Mang. Le père Joseph Marchand s'y est refusé. D'ailleurs, on a une lettre de lui, une lettre autographe, du fort de Saigon, le 27 septembre 1834. Elle est datée ainsi. Il écrit à Monseigneur Taberde, « Je suis soldat des révoltés, enfermé. » Alors, il a autour de lui des milliers d'obsédants, dit-il. « La guerre dans ce pays-ci, ajoute-t-il, est un brigandage. » Alors, il est resté 18 mois emprisonné de façon absolument abominable. Les troupes royales ont pris la ville en septembre 1835, donc un an plus tard. Et là, on l'a accusé d'avoir participé à la rébellion. Pourtant, il n'avait pas voulu. Et conduit à Hue, on en a souvent parlé de Hue, H-U-E, accent aigu, hein, durant la guerre du Vietnam, il a été incarcéré. Et là, on l'a questionné, on l'a torturé avec des tenailles rougies au feu. Il a maintenu fermement qu'il n'avait jamais favorisé les révoltés. On en est venu à l'épreuve cruciale. Il fallait qu'il marche sur la croix. Alors le bienheureux Joseph Marchand a été le seul à être interrogé et torturé immédiatement avant sa mort. Et le 30 novembre 1835, il y a exactement 160 ans, à 5 heures du matin, 7 coups de canon ont retenti pour convoquer les gens de Hue à l'exécution. Le bienheureux Joseph Marchand a été tiré de sa cage. On l'a amené entre deux haies de soldats, attaché sur un brancard, les jambes écartées, les bras étendus, une petite cotonnade sale autour des reins. On l'a forcé à se prosterner 5 fois devant le prince. Minh Mang a laissé tomber un petit drapeau. C'était le signal du départ pour le tribunal des supplices. Et là, deux bourreaux ont immobilisé notre martyr. Tandis que 5 autres bourreaux, avec une grosse tenaille, rougie encore, ont pincé 5 fois les cuisses et les jambes. Et le pauvre Joseph Marchand, ce prêtre tout jeune, criait, malgré lui. Et là, le mandarin a demandé pourquoi les chrétiens arrachent les yeux aux mourants. Ce qui est faux. Hein? Et là, on lui a fait de nouvelles pincées brûlantes. On lui a demandé encore une autre question sotte et imbécile. Pourquoi les futurs époux se présentent-ils aux prêtres devant l'autel? Et 5 nouvelles blessures se sont ajoutées aux 10 précédentes. On lui a dit, pourquoi les abominations des festins chrétiens? Quel est ce pain magique mangé après la confession? Et le pauvre martyr épuisé n'a pas pu répondre. Et là, les bourreaux se sont arrêtés. Et le cérémonial comporte ici un repas du condamné. Et là, le juge appelle un valet. J'ai demandé à monsieur l'Européen ce qu'il désire manger. Et le père Joseph Marchand a répondu, « Merci, je n'ai plus faim. » Il s'est recueilli, il priait. On lui a mis un caillou dans la bouche en guise de bâillon, avec un frein en bambou. On l'a porté en courant sur son brancard au lieu du supplice, et là, quelqu'un est chargé de compter les plaies, un autre de les inscrire. On rabat la peau des sourcils sur les yeux, et à la tenaille, on détache de la poitrine. C'est terrible, mais je le lis parce que c'est vrai. On détache de la poitrine deux lambeaux sanglants d'un demi-pied de long, de 6 pouces de long, de même dans le dos, de même au gras des jambes. Et à ce moment, ce pauvre prêtre, Joseph Marchand, béatifié, a succombé. Il est mort à 32 ans près de Hué, à Todouk. Le corps a été coupé en 4 morceaux et jeté à la mer. La tête a été exposée, puis finalement broyée dans un mortier, et la poussière de son crâne a été jetée à la mer. C'est Grégoire XVI qui l'a déclaré, ce missionnaire admirable, vénérable, en 1840. Et c'est le pape Léon XIII qui l'a béatifié en 1900. J'ignore s'il a été canonisé, je l'espère. Il y a dans le monde beaucoup d'hommes et de femmes, on s'en rend compte, qui ont souffert bien plus que Jésus lui-même. On ne sait même pas s'il a connu la maladie sous quelque forme, Jésus. Mais durant les 3 dernières années de sa vie, on sait qu'il a senti monter et s'amplifier ce rejet de toute une nation, la nation juive qu'il aimait. Il a souffert aussi jusqu'à l'abandon apparent de son père. Cela a dû être quelque chose à vivre, ce sentiment d'abandon, d'injustice et d'absurdité. Tout cela, il l'a connu, Jésus. Et comme nous, il a tenté d'apprivoiser la souffrance sans jamais lui courir après. Et surtout, sans jamais perdre de vue la mission d'amour qu'il prétendait mener jusqu'au bout. Hein? Il n'y a rien de surhumain dans son attitude, mais une admirable fidélité d'homme de Dieu. On peut se demander pourquoi certaines gens franchissent la mort sans pratiquement souffrir, alors que d'autres endurent une interminable agonie. Il y a des gens qui n'acceptent pas cela. Mais telle est la question que l'on pose souvent. Et pour répondre à cela, il faudrait être Dieu. Personnellement, j'avoue ne pas être en mesure de comprendre ce que Dieu pense. Mais on peut dire d'abord qu'il n'y a pas 2 personnes qui souffrent de la même façon dans la même maladie. Et ensuite, si quelqu'un nous envoyait la souffrance, nous serions en droit de lui demander pourquoi il en envoie plus à certains qu'à d'autres. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a donc pas à proprement parler d'injustice. D'ailleurs, je pense plutôt que la mesure de la souffrance dépend à la fois de la personne qui souffre, de la maladie en question. Certains cancers mortels sont souffrants, d'autres beaucoup moins. Et pourquoi? Encore une fois, je ne suis pas Dieu, nous ne le sommes pas, on ne peut pas répondre. Et en troisième lieu, on ne choisit pas sa maladie. Et comme ce n'est pas Dieu non plus qui l'envoie, de ce côté non plus, il n'y a pas d'injustice, alors quoi faire? Assumer, c'est assumer au mieux la souffrance. C'est ça qu'il faut faire. Je sais qu'une longue maladie a contribué à ouvrir les yeux d'innombrables personnes, à leur faire découvrir des ressourcements absolument insoupçonnés. Rien de cela ne serait produit, se serait produit sans cette maladie. Et ces personnes ont réussi à aimer, ce qui s'appelle aimer vraiment. Et aucun de nous, d'ailleurs, ne doit se vanter d'avoir aimé s'il n'a pas aussi souffert. Que des gens souffrent sans aimer, vous m'en voyez désolé, hein? Mais que des gens aiment sans souffrir, cela ne s'est jamais vu, j'en suis sûr. Vous voyez bien que tout au long de ce que je vous raconte, On ne cherche pas à donner quelque explication que ce soit de la souffrance. Jésus non plus ne l'a pas fait. Il a assumé ce que son amour pour nous lui interdisait de refuser. Il n'est dit nulle part que Jésus a aimé la souffrance ou l'ait recherchée pour elle-même. Je crois qu'il revient à chacun de nous, non de subir ce qui nous arrive, ni de s'y résigner, mais de nous convaincre que si la souffrance n'est pas la mesure de l'amour, on ne trouve jamais l'une sans l'autre. Assumer la souffrance est un combat que l'on n'est jamais sûr d'avoir gagné. Il y faut du courage, parfois de l'héroïsme, mais toujours une longue patience. En somme, ce qui peut nous fasciner, c'est le nombre étonnant de personnes qui, après s'être longtemps coltaillées avec la souffrance, ont réussi à vivre debout, comme Joseph Marchand dont je vous ai parlé, malgré la morsure de la maladie ou du martyre. Et pourquoi? C'est saint Paul qui nous le dit. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je me suis inspiré d'un texte de Marcel Provost. Si vous désirez une cassette audio de cette émission, vous téléphonez à 374-3785. 374-3785. Les chants entendus au cours de cette émission viennent d'un disque compact que vous pouvez vous procurer ici à Radio Ville-Marie et qui existe aussi en cassette. Vous pouvez obtenir aussi la cassette audio de ces chœurs des cathédrales, chants des cathédrales, en téléphonant donc à Radio Ville-Marie, 382-3913. Je répète le numéro de téléphone. 382-3913. Radio Ville-Marie est située au 505 avenue du Mont-Cassin, Montréal H3L1W7. Faites-nous parvenir vos commentaires, vos demandes et au besoin, si vous avez un peu d'argent, un chèque. Ah, si nous recevions bien des chèques de 100 ou 1000 dollars, ça nous aiderait beaucoup. À la production technique, Madeleine Larocque au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. À demain pour le dernier jour de l'année liturgique. Et je vous souhaite déjà une heureuse année liturgique qui commence samedi après-midi. Au moment des vêpres. À bientôt.